Sandy Sabatier sur MFM Radio avec Philippe Lelouch dans la pièce Le Temps qui reste au Théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 31 décembre.
Alors c'est maintenant qu'il faut écouter l'émission si vous aimez Philippe Lelouch, ce qui est mon cas, je vous le dis, de parti pris. Donc on est ensemble pendant une heure et j'espère que vous avez passé jusque-là une bonne semaine. Philippe Lelouch est là, comment ça va?
Je vais très bien, puis je suis ravi d'être avec vous, Patrick.
Moi aussi. Alors on va parler évidemment du Temps qui reste. Ça se passe au Théâtre de la Madeleine, c'est jusqu'au 31 décembre, il faut en profiter, c'est tous les soirs à 21h, c'est écrit, c'est pas la première pièce qu'il écrit Philippe, mais c'est écrit par Philippe, c'est mis en scène, et ça c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, par Nicolas Briançon.
Absolument.
Pourquoi Nicolas Briançon, pour l'avoir choisi?
En fait on s'est choisi un peu, parce qu'on vient d'univers tout à fait différent, moi j'adore son travail, et c'était une rencontre assez magique en fait, parce que j'étais pas sûr qu'on allait bien s'entendre, parce qu'on vient tellement d'univers opposés, et en fait ça a été tout le contraire, comme parfois vous savez, les pôles s'attirent. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je suis ravi du travail qu'on a fait ensemble.
Alors, Le Temps qui reste, comme toute bonne pièce, elle a un bon titre. Le Temps qui reste, c'est à l'occasion... Moi, j'ai pas encore vu la pièce, mais je vais venir la voir. Mais en tout cas, ça m'a tellement parlé. L'histoire, c'est à l'occasion de l'enterrement d'un des 5 copains. Les 4 autres, avec une jeune femme, se retrouvent et puis font le point sur hier, sur aujourd'hui et sur demain. Alors, évidemment, ça paraît très facile quand on dit ça. Je vous le dis en deux lignes, mais après, il faut écrire la pièce. Entre le moment où tu as l'idée, qui est une idée généraliste, qui est une idée qui parle à tout le monde, qui est une idée qui nous concerne tous, et le moment où ça devient une pièce de théâtre, il se passe combien de temps et comment ça se passe?
Ça, c'est vraiment une très très bonne question, parce que c'est le vrai temps du travail. C'est-à-dire qu'entre le moment où je me dis, tiens, il faudrait écrire une pièce là-dessus, et le moment où je commence à l'écrire, il se passe un an à peu près. C'est-à-dire que c'est là... C'est là où la tête fait son boulot, je crois, de manière inconsciente, parce que je sais qu'il faut que j'écrive une pièce, j'ai trouvé le sujet, j'y pense de temps en temps, assez régulièrement, les trois quarts du temps, ça m'emmerde d'y penser, parce que ça veut dire faut que je me mette au travail, je ne fais rien, je suis en train de me dire, faut quand même que j'écrive, et il doit y avoir un travail inconscient qui se passe, et après, ça va très vite. C'est-à-dire qu'une fois que je suis à la table de travail, moi, j'écris en quelques mois, voire en quelques semaines, parce que tout a été cogité presque inconsciemment. Ça vient, c'est le miracle. Et d'ailleurs, à chaque fois que je me dis la prochaine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire, parce que j'ai l'impression d'avoir tout livré à chaque fois. Donc
oui, parce qu'à chaque fois, les pièces parlent à tout le monde.
J'espère.
Ah non, mais c'est sûr. Bon, on l'a vu déjà. Je veux dire que ça parle à nos vies, ça parle à ce qu'on vit tous. Et gros avantage également, c'est à tous les âges.
Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense. Alors l'avantage que moi j'ai, c'est que je suis né nostalgique. Donc la notion du temps qui passe, je l'ai eue très très vite et très très jeune. Mais je pense qu'en fait, j'avais vu un jour un film de Claude Lelouch, l'illustre, qui lui, je crois que c'est au début de l'aventure, c'est l'aventure, dit dépêchez-vous de vivre, il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. Voilà. Et j'avais vu ce film très jeune et je m'étais dit ouais, c'est vrai ça en fait. Et donc, ça part de là, c'est-à-dire qu'à tous les âges, il faut évidemment avoir conscience du temps qui reste. Évidemment, plus le temps passe, plus on a conscience que ça se rétrécit. Mais globalement, c'est ça, il est urgent de vivre, comme disait l'autre.
Il y a un principe dans l'émission Une tablette. Cette tablette, il y a des mots qui vont apparaître, qui sont en rapport plus ou moins avec toi. Avec ces mots, moi, je dois faire des questions, pas important, les réponses très importantes. C'est parti.
Ok, j'y vais, je slide.
Théâtre. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le théâtre, parce que tu as fait du cinéma, tu es un homme public, tu fais de la télévision. Est-ce que le théâtre, ça représente quelque chose de plus important que les autres?
Oui, définitivement, parce que c'est magique, le théâtre. C'est le seul endroit où on peut pas tricher. Voilà. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a tout à refaire. Et les gens, il faut raconter l'histoire. On peut pas refaire une prise. Il y a pas, quand on a raté la phrase, on l'a raté. Quand les gens sont là, il y a quelque chose d'excessivement généreux de la part des gens d'être venus, de s'être déplacés, d'avoir payé une place et puis de dire bon bah voilà, à toi de jouer. Donc il y a quelque chose de très émouvant là-dedans et puis de sentir on raconte une histoire en direct. Et c'est ça, moi qui me paraît essentiel dans mon métier, c'est de raconter une histoire. Voilà. Alors là, évidemment. Ouais, j'ai un amour profond pour le théâtre. Moi, je crois qu'on fait du cinéma par orgueil, voilà, plus que pour l'amusement, parce qu'évidemment, on gagne beaucoup d'argent, souvent plus qu'au théâtre, ça c'est sûr. On est sur 500 salles en même temps, il y a quelque chose de très valorisant, c'est de très orgueilleux. Mais en réalité, notre vrai métier, me semble-t-il, même si, évidemment, jouer au cinéma, c'est un métier, c'est le théâtre, quand même. Voilà.
Au théâtre de la Madeleine, ça commence à 21h, toi tu vas à quelle heure?
Moi, j'y vais en général une bonne heure avant. J'ai besoin d'y être une heure avant, non pas pour me concentrer, parce que je ne me concentre pas, mais pour y être, voilà, pour me dire, je suis là.
Philippe Lelouch est là, évidemment, c'est l'auteur de la pièce. Il y a David Brécourt, il y a Christian Vadim, que l'on connaît bien. Il y a Noémie Elbaz.
Oui, qui est la nouvelle venue.
C'est une nouvelle venue.
Ouais, c'est une nouvelle venue. Bah, avant, jusque-là, mes pièces étaient jouées avec Vanessa Demouy, qui était ma femme, qui reste la mère de mes enfants. Mais comme on s'est séparés, elle a trouvé plus judicieux de cette fois-ci, en tout cas, de ne pas partager la scène avec nous. Mais ça reviendra peut-être.
Un autre mot. Mon idole. Quelle est ton idole? Est-ce que tu as une idole?
Ouais, j'en ai. Alors, si on parle d'acteur, ouais, j'en ai beaucoup, mais s'il faut en sortir un spontanément, celui qui me vient, c'est Lino Ventura. Mais voilà, parce que j'aimais ce type-là profondément dans son jeu, mais il y en a tellement d'autres. Voilà, mais lui, voilà. Et puis, s'il faut prendre un vivant, je prendrais Gérard Depardieu, bien qu'ils aient pas grand rapport l'un avec l'autre. Mais c'est pour moi deux immenses acteurs, et puis des types que j'aime bien, dont j'aime bien le discours et l'attitude en général.
C'est Philippe Lelouch, votre invité. Céline Dion a été choisie par Philippe tout de suite sur MFM Radio, et on retrouve Philippe Lelouch pour son émission.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
Alors on continue avec, après Céline Dion, avec un autre mot.
Mon frère et moi.
On parlait de cinéma, ton frère Gilles fait du cinéma. Ouais. Vous vous entendez bien?
Très bien. On s'entend très bien. On a été élevés 13 ensemble, hein, pour le coup. Et très bien. C'est toujours très émouvant.
Qui donne des conseils à l'autre?
Ça dépend des moments. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie là-dedans, bien que je sois le frère aîné et que j'aimerais souvent donner. Il n'y a pas d'hiérarchie, mais en tout cas, c'est rarement dans le travail. C'est-à-dire que c'est un sujet que bizarrement, non pas qu'on évite, mais qu'on n'aborde pas très souvent, sauf quand événements exceptionnels, avant-première, première au théâtre, etc. Mais c'est pas ce qui nous occupe. Voilà, c'est quand on est chez ma mère, ce qui arrive à peu près tous les week-ends et tout ça. On parle d'autre chose.
Vous imaginez tous les deux dans une même scène, dans une même pièce, ça serait possible?
C'est le rêve. C'était le rêve de mon papa, tristement disparu, qu'on fasse un jour un film ensemble. Il faudrait trouver le script. C'est pas facile. C'est difficile pour nous de jouer autre chose que deux frères. Hein. Donc il faudrait trouver un jour. Mais oui, non, c'est pas du tout inenvisageable.
Autre mot dans ton émission, la bande à Lelouch. Ouais. Oui, j'ai un peu l'impression là, les David Brécourt, les Christian Vadim, maintenant Noémie. Enfin voilà, c'est tes potes, quoi.
Ouais, c'est mes potes.
Tu fais la pièce et tu les siffles.
Je la distribue. ouais, c'est ça. Bah oui, parce que je les connais bien. Il se trouve que au-delà de l'amitié, parce que ce serait une amitié un peu imbécile si ça correspondait pas à ce que je recherche. Et c'est qu'ils savent, c'est des super bons acteurs. C'est-à-dire que je ne connais pas leurs limites de jeu. Donc c'est vachement agréable. C'est-à-dire que je sais qu'ils vont savoir le jouer. Et puis c'est vrai qu'avec les années, puisque ça fait 12 ans maintenant, ils ont ma musique, voilà, ils savent.
Et ils ont le rythme.
Ouais, ils ont le rythme. Et donc, on gagne un temps fou, hein, parce qu'on se connaît très très bien. Ce qui est d'ailleurs souvent compliqué pour Noémie. C'était au début, elle a fait sa place très très bien, mais c'était très difficile parce qu'elle entrait dans un truc où il y avait une espèce de chorégraphie qui s'installait très vite.
Allez, autre mot. Écrire. On en a parlé un peu tout à l'heure.
Ouais.
Tu me disais que j'écris pas vraiment d'une façon disciplinée. J'écris quand ça me vient, mais en réalité, j'écris sans écrire. J'écris en y pensant. Quoi.
Ouais.
Et au moment où j'écris, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, Philippe nous a dit une chose que j'admirerais avoir comme talent, j'écris vite, car tu écris vite.
J'écris vite parce que j'aime pas ça, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'il y a Bernanos qui avait écrit un jour « La douleur d'écrire, le bonheur d'avoir écrit », c'est exactement ça.
Ouais.
C'est-à-dire que cette période-là, elle est contraignante pour moi, parce que je suis pas du tout un solitaire, la solitude est un truc qui m'effraie, et ça c'est un travail de solitaire. Donc il faut que je me mette tout seul devant l'ordinateur ou devant ma feuille blanche et que j'écrive. Donc je retarde l'échéance au maximum, et quand j'y vais, il faut que ça aille vite. Voilà, donc ça veut dire qu'heureusement que j'ai cogité le truc avant, mais il y a une anecdote, et vous doutez bien que je ne ferai pas de comparaison stupide, mais il y avait un jour, je crois c'était Molière, et quelqu'un lui demandait « Où en est votre prochaine pièce ? Elle est finie, il ne me reste plus qu'à l'écrire. » Voilà, oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a ce truc. Bon, ok, maintenant je sais. Alors faut l'écrire, mais il faut y passer par le stade d'écriture. Mais donc j'adore avoir écrit, et c'est vrai que je peux pas dire que le moment de l'écriture me fascine.
On passe à un autre mot, nous. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais quoi ou qui?
Oh, spontanément, je vais vous dire mon père, mais ça, c'est tellement banal.
Non, c'est pas banal.
Mon père.
Quand on parle de ses parents, c'est pas banal.
Ouais, mon père, j'oublierai jamais. C'est tous les jours. C'est bizarre. On peut avoir son père vivant quotidiennement et passer une journée sans l'appeler ou sans y penser. Ça m'arrivait quand il était vivant. Aujourd'hui, il est mort il y a un peu plus de 8 ans. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne quotidiennement, dont les phrases me reviennent quotidiennement, dont les attitudes parfois, d'ailleurs pas celles qui m'amusaient le plus à l'époque, mais que je peux moi adopter à nouveau avec mes enfants. La dernière fois, je me disais, mais merde, on aurait dit mon père. Voilà, c'est quelqu'un d'évidemment important. C'était ma marche arrière.
Il faisait quoi?
Il a un peu fait tout. Il avait une formation de comptable. Il a fait une grosse carrière comme industriel. Et puis à la fin, comme il aimait toujours travailler jusqu'à la fin de ses jours, il avait remonté un cabinet comptable pour continuer à bosser, quoi. Mais c'était mon frère, hein, moi je crois, notre héros de cinéma. Voilà, il y avait quelque chose de...
Tu parlais de marche arrière. Est-ce que ton père aurait apprécié, je fais allusion à l'actualité, à ce que tu répondes à la tête de Dominique Chapat, ou est-ce qu'il t'aurait plutôt conseillé de tomber?
Non, mon père m'aurait dit, va lui casser la gueule, je crois.
Ah, carrément.
Ouais, c'était pas le genre à discuter beaucoup, mon père. Et d'ailleurs, c'est ce qui...
En deux mots, pour les auditeurs qui sont pas au courant, mais on va pas en faire des tonnes. Dominique Chapat a une émission sur M6 qui s'appelle Turbo. Toi, tu as une émission sur RMC Découverte. Et Dominique Chapat dit, mais il parle pas de voiture comme il faudra en parler, quoi.
Enfin, ça va un peu plus loin que ça, parce que ça, il l'a déjà fait. Il nous a traité de guignol il y a 6 mois. Bon, ça nous a fait sourire, parce qu'on s'est dit, il vieillit un peu, c'est un peu comme tous les ringards, quoi. Quand un truc leur échappe, tout d'un coup, ils apprécient pas. Donc, ça valait pas le coup de répondre. Là où je réponds, c'est quand tout d'un coup, il dit que je suis vulgaire et mal élevé, qu'il a pas été élevé comme ça. Parce que j'ai dit dans la voiture de Jacques Lafitte, arrête-toi, je vais gerber. Ce qui me fait rire. C'est-à-dire, oulala, mon Dieu, que la vulgarité. Donc, c'est pas à toi que je vais dire ça, Patrick. Si Coluche était vivant, je sais ce qu'il dirait de la vulgarité. Voilà, il a confondu grossièreté et vulgarité. Et j'ai été obligé de lui renvoyer dans les dents, parce que c'est mon tempérament, que la vulgarité, c'est de se prétendre journaliste et de se faire acheter par des marques automobiles. Et que je n'aime pas qu'on m'attaque gratuitement, ni moi, ni encore moins mes parents, après ce que je viens de te dire.
Oui, tu comprends? C'est pour ça que je veux en parler maintenant.
Et moi, quand on me traite de mal élevé, y a quelque chose qui me dérange, et surtout que vraiment, c'est stupide. C'est-à-dire qu'il y a un public pour toutes les émissions, on n'est pas en train d'aller jouer sur ces plates-bandes, je ne suis pas en train de les interdire de travailler, on est sur une petite chaîne qui n'a absolument pas en concurrence avec M6, que je respecte infiniment. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, voilà. Dominique Chapat?
Voilà, ouais. Si on a une chose à dire, c'est que vous avez le choix, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, d'avoir X émissions de radio, X émissions de télévision, et quand quelque chose ne vous plaît pas, vous changez. Et nous, qui sommes tous quelque part confrères, on fait tous le même métier, les animateurs, même les gens de cinéma, voilà. C'est comme si on disait, nous, dans tel film, il est nul. Non, on peut pas se permettre de dire ça. Vous le jugez, et puis comme ça, chacun est à sa place, et tout ira bien.
Mais surtout, Patrick, tu comprendras bien que moi, j'ai aucune mission journalistique, ça n'est pas mon métier.
L'émission n'est pas pour ça.
Je fais du divertissement,
voilà,
moi.
Voilà, donc, c'est autre chose.
Voilà.
Allez, Dominique, il faut passer à autre chose. Jean-Jacques Goldman, tout de suite sur BFM Radio, et on retrouve Philippe Lelouch pour son émission.
Samedi Sabatier sur MFM Radio, avec Philippe Lelouch, dans la pièce Le Temps qui reste, au Théâtre de la Madeleine à Paris, jusqu'au 31 décembre.
Le Temps qui reste, c'est au Théâtre de la Madeleine. C'est rue de Suresnes, une petite rue qui se trouve pas très loin de l'Élysée, si vous ne connaissez pas Paris. Et c'est tous les soirs à 21h, et c'est jusqu'au, attention, 31 décembre. Donc, n'hésitez pas à retenir vos places. Et voici, pour Philippe, un autre mot, peut-être.
Oui.
La réussite, c'est quoi?
La réussite, c'est d'arriver à se contenter de ce qu'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, un moment où il y a toujours plus beau, plus fort, plus grand. Toujours. Et à un moment, c'est de se dire, est-ce que c'est bien là? Est-ce que je suis content? Est-ce que l'enfant que j'étais est assez fier de ce que je suis devenu? Voilà. Pour moi, c'est ça, la réussite. C'est d'arriver à un moment à se dire, ça veut pas dire devenir feignant, hein. Mais de se dire, ça va, la course, la conquête a un temps, et puis après, il y a profiter de ça. C'est-à-dire, ce que tu connais infiniment mieux que moi, Patrick, parce que ta carrière est immense, c'est d'un moment de se dire, ma femme, mes enfants, ce que je constate quand, puisque nous qui nous connaissons un peu, voilà, c'est ça pour moi la réussite. C'est un moment de se dire, voilà, c'est fait, je l'ai fait. Parce qu'il y a un temps, c'est vrai qu'il y a un temps, à 20 ans ou 30 ans, ce qui empêche d'être un bon papa, souvent. En ce qui me concerne, ça m'a fait passer à côté de beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas être beaucoup présent à la maison quand on travaille beaucoup. Mais ce temps-là, il est nécessaire à sa construction d'homme, me semble-t-il. C'est quelque chose qu'il faut après expliquer à ses enfants en leur disant « Si papa n'a pas été là, c'était pour ça, et je te souhaite presque la même chose. » Et puis, il y a un moment où c'est de se dire « Bon, maintenant, on va être moins dans la conquête et plus dans la contemplation. »
Moi, j'ai ma petite définition depuis peu de temps. La réussite, c'est d'arrêter de penser à soi et de commencer à penser aux autres.
Ouais, ça veut dire ça, absolument.
Parce qu'à un moment donné, c'est normal, d'ailleurs. Il faut qu'on ait envie de bouffer des montagnes. On est là, sinon, voilà. Alors, en plus, c'est des métiers tellement compliqués.
Tellement durs.
Donc, il faut qu'on ait envie. Et puis, une fois qu'on a, à un moment donné, il faut... Allez, mettre les choses à leur place.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Allez, un autre mot. Dans 20 ans. Alors, dans 20 ans, bah, tu seras encore très jeune, puisque tu auras 42 ans. Et donc, tu feras quoi dans 20 ans?
Je serai dans le sud, avec des oliviers... Des enfants.
Vraiment. J'ai une maison à vendre.
Non, mais je suis acheteur. C'est vraiment ça. J'ai envie d'être. Évidemment que j'aurai envie d'encore sûrement, j'espère, de jouer au théâtre, de faire encore des choses, mais peut-être de manière un peu moins régulière. Et puis, oui, profiter du temps qui reste. Oui, sûrement. Oui, j'imagine comme ça. En tout cas, on parlait de conquête tout à l'heure. J'espère que j'en serai plus là.
Patrick Bruel est dans le programme de Philippe Lelouch. Et c'est maintenant.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.
Alors vous le savez, le samedi, mesdames et messieurs, on prend le temps d'écouter de la radio et on prend le temps de la faire. C'est-à-dire qu'on a un invité, puis on se parle. Voilà, on se parle de tout et de rien. Très souvent, d'ailleurs, le rien est plus important que le tout.
Oui.
Donc il ne faut jamais dire qu'on va dire un truc, on ne sait pas où on va. Et c'est comme ça que l'émission existe. Alors, c'est parti avec Seul. Tu as dit tout à l'heure que tu n'aimais pas être seul.
Non.
Pourtant, est-ce que quand on fait le métier que tu fais, il n'y a pas des moments où tu as besoin d'être seul pour savoir où tu es, savoir ce que tu vas faire?
Ouais.
Toi, ça te fait vraiment peur?
Ouais, j'ai très peur de ça. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est marrant, j'ai pas fini de me faire traiter de ringard, mais hier, en écoutant la radio, je tombe sur la chanson de Claude François, Le Mal-Aimé, tout ça. Et à un moment, je n'avais jamais fait attention aux paroles. Il lui dit « D'où me vient cette mélancolie cachée au fond de moi ?» Voilà. Et il y a ça souvent chez nous tous. Moi, je me dépêche d'en rire, et puis peut-être que si j'étais seul trop longtemps, ces choses-là ressortiraient de manière plus forte. Oui, il y a quelque chose que je veux fuir, sûrement. Alors que je pense être un type profondément heureux et de bande comme ça, et d'aimer rire, et d'avoir des copains et des machins, il y a peut-être, oui, un truc que je planque, que je serais incapable d'identifier, qui est une certaine trouille. Alors la solitude m'y ramènerait, donc j'ai pas envie d'être confronté à ça souvent. Donc ça me permet d'être... De vivre à beaucoup, voilà. Oui, je suis pas fan.
À beaucoup. Un autre mot.
Amoureux.
Amoureux en ce moment?
Pas mal, ouais. Pas mal. Je me méfie de ça beaucoup parce que j'ai souvent confondu, moi, dans ma vie, amour et passion. Parce que la passion est quelque chose comme ça de qui envoie loin et fort, mais on sait par essence que ça dure pas et que c'est une chimère. Voilà, mais enfin, c'est très agréable. Voilà. Et j'ai longtemps couru après ça... d'avoir le cœur qui bat, parce que ça fait partie de, peut-être des raisons pour lesquelles on fait ce métier aussi, c'est-à-dire qu'on veut tout vivre fort. Voilà. Et amoureux, je suis pas sûr que ce soit passionné. Et en tout cas, quand ça démarre une histoire d'amour par une passion comme ça, elle est assez, ça peut être assez pernicieux. Donc, il faut essayer de trouver ce juste milieu. Est-ce que amoureux, c'est pas tout simplement être bien avec la personne qui vous accompagne, sans chercher absolument cette espèce de truc qui fait que, qu'on vit à 100 à l'heure et que, mais en même temps, qui est très agréable. J'ai pas beaucoup de réponses à ça. En tout cas, il faut savoir que l'état amoureux est principalement pour moi la seule bonne, vraie, unique raison de vivre.
Voilà. Un autre mot. Loin, c'est où?
Loin, c'est où? Loin, c'est l'enfance perdue. Ça, c'est loin.
Ah, c'est toujours mélancolique, hein?
Ouais, il y a quelque chose de parce que tout est accessible aujourd'hui, on peut aller loin, il n'y a plus de loin, c'est un petit monde. On s'imagine que c'est loin, mais en réalité, moi qui ai la chance de voyager pas mal, on se rend compte qu'il n'y a plus de grande distance. La grande distance, c'est le passé. C'est le passé dont il faut savoir se séparer par moments. Mais voilà, moi par exemple, qu'est-ce que j'aimerais, vous savez cette fameuse phrase là, combien tu donnerais pour revivre une journée d'enfance et tout ça. Moi il y a des moments choisis comme ça que j'aimerais revivre, et qui sont essentiellement, oui c'est vrai, liés... à mon enfance, à voir mes parents sur la plage et tout ça. Ouais, c'est des choses que j'aimerais bien revivre.
Les enfants vont bien?
Très bien, merci, ouais.
Papa, tu peux nous dire ce que c'est que la vie?
La vie, c'est d'être un mensch, comme disait mon père, c'est d'être un homme, c'est-à-dire d'assurer sa poignée de main, de savoir tenir parole. C'est déjà pas mal, si t'arrives à ça. Tenir parole, c'est une denrée de plus en plus rare aujourd'hui. J'aime beaucoup, moi, les hommes qui tiennent parole et qui vous regardent franchement. Voilà, d'avoir le courage de ses amitiés, de ses amours. C'est ça, la vie, mon fils.
Laurent Voulzy, c'était mon copain d'école. Lui, il a bien réussi dans la chanson.
Samedi Sabatier sur MFM Radio, avec Philippe Lelouch, dans la pièce Le Temps qui reste, au Théâtre de la Madeleine, à Paris, jusqu'au 31 décembre.
Alors, dernière partie de l'émission avec Philippe Lelouch pour ce samedi. Je suis le seul à savoir que... trois petits points... Ce qu'on ne devrait pas savoir, hein, puisque tu es seul à savoir. Est-ce que tu as un secret caché que toi seul connais ?
Ouais, mais ça va. J'ai deux choses. Il y a une névrose en moi, mais je crois qu'elle est très commune chez beaucoup d'artistes. Que je suis une escroquerie. Le seul à savoir que je suis une escroquerie.
Que tu es un usurpateur.
Ouais.
Mais combien de gens m'ont dit ça faisant ton métier ?
Tu vois, c'est fou de me dire.
Ce qui m'arrive, c'est pas normal.
Il y a un jour, un mec,
ils vont s'en apercevoir.
Ouais. Et ils vont dire, allez, ça va, maintenant tu vas prendre un vrai boulot, ça a assez duré. Ça, il y a vraiment ce truc-là. Ouais, il y a ce truc-là chez moi. Et j'aimerais bien guérir de ça, d'ailleurs, c'est chiant. Et puis, je suis le seul à savoir que. Mais que je suis gentil, voilà. Je suis pas un méchant mec. Je suis bagarreur. Faut pas me chercher, tout ça. Mais je suis pas un mauvais mec. Voilà. Et des fois, c'est agaçant de se prendre des critiques personnelles qui sont violentes à prendre parce qu'on se dit, je suis pas ça. En fait, l'injustice, je m'égare.
Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il faut le dire.
Ouais.
C'est-à-dire que moi qui te connais un peu, il fait comme ça un peu. Oh, allez.
Ouais, c'est
ça. En réalité, c'est tout le contraire. C'est une patte molle de gentillesse, c'est quelqu'un qui a envie que toutes les choses s'arrangent, que ce soit doux. C'est pour ça que quand tout à l'heure j'ai parlé de Dominique Chapat, il comprend pas, parce que lui, il l'aurait pas fait.
Jamais j'aurais fait ça.
Il peut faire tout ce qu'il veut, Dominique Chapat, à la limite, il s'en fout. Voilà, c'est un type gentil.
Merci.
Voilà, tout simplement.
Ouais,
sauf que c'est désuet, gentil. Ça veut... Mais non, c'est tout sauf désuet. C'est tout sauf désuet. Être gentil, ça veut dire être bienveillant, être tolérant, laisser les autres faire ce qu'ils ont envie de faire.
Ouais, aimer, respecter... Voilà, il y a un truc comme ça qui m'aurait interdit, par exemple, d'être critique. C'est un métier que je respecte. C'est un métier étrange, mais oui, parce que c'est. Qu'est-ce que ça veut... Je connais pas un môme qui se dit je vais être critique. Voilà, c'est un métier étrange. Voilà, mais je peux comprendre que ça ait une besoin d'exister tout ça, mais j'aurais jamais pu faire ça moi. Ou alors j'aurais fait partie de ceux qui n'écrivent pas quand ils n'aiment pas. Alors j'aurais pas écrit beaucoup, sûrement. Voilà, enfin, il y a quelque chose comme ça où moi j'ai plutôt envie de. En réalité, tous les gens qu'on crée. Donc on fait quelque chose, et pas forcément dans l'artistique d'ailleurs. Hein. Moi, je peux rester 5 heures avec un ébéniste ou un garagiste parce qu'il fait un truc, ça m'épate. Voilà, je respecte ça. Et en même temps, je suis ravi d'être comme ça parce que ce métier m'épate encore tous les jours pour ça, parce que j'ai accès aux gens que j'ai vus tout petit. À toi, par exemple, Patrick, quand on s'est vu la première fois, ou qui m'a fait rêver à la télé, où je me disais, waouh, ça doit être génial de faire son boulot, ça doit être génial d'être invité par lui, d'être lui, enfin, tu vois. Et j'ai aujourd'hui la chance souvent de rencontrer ces gens-là. Et ça, c'est génial pour moi parce que c'est ça le rêve d'enfant, en fait.
Allez, dernier mot ou avant-dernier mot. Applaudissements.
Ah, ça, c'est une drogue dure. Il est là, mon égo démesuré. Il est là, le rire et les applaudissements, c'est la vraie récompense. Et puis, c'en est une. Il n'y a pas beaucoup de boulot. On est applaudi quand on a fini de bosser, hein. Ça serait génial, vous imaginez au bureau, quand la secrétaire a fini son tout le bureau qui fait ça, c'est quand même génial. Donc ça, on a cette chance d'être...
On devrait d'ailleurs l'instaurer,
ça. Ce serait génial.
Dans les entreprises, là, mais je vous assure, ça serait peut-être sympa. Le matin, on s'applaudit, on s'encourage.
Voilà, et le soir, quand on a fini, bravo à tous.
Absolument.
Il y a un truc génial là-dedans.
Il y a un truc à faire. Un autre mot, peut-être ?
C'est comme ça chez moi.
C'est comment chez toi ?
C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que il y a une porte... globalement assez ouverte, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les grands dîners, les copains, tiens, viens boire le café. J'ai la chance d'avoir mon ami, comme mon grand frère Gérard Darmon, qui est mon voisin du dessus. Donc on vit comme ça dans des trucs, tu passes boire un café, ouais, j'arrive, ça sonne, ça machin. Et j'aime bien ça, j'aime bien cette vie-là.
Dernier mot, parce que j'arrive...
Il faut bien se séparer, bah dis donc.
Il faut se séparer.
Bah oui, c'est pas le plus simple pour moi, ça. J'aime pas beaucoup les fins de quelque chose, tourner une page, tout ça, c'est très difficile. C'est très difficile pour moi d'écrire le mot fin, dans ma vie, comme sur la scène d'ailleurs. Quand un film se termine, je suis souvent malheureux. Quand une pièce se finit de jouer, je suis pas heureux. Dans ma vie, évidemment, la séparation, qu'elle soit consentie ou non d'ailleurs, mais sauf quand c'est non, évidemment, c'est plus facile, mais même quand c'est de consentement mutuel, je veux dire, c'est très difficile pour moi. Mais parce que je sais pourquoi, parce que c'est renoncer, voilà, ça, c'est accepter que ça fasse partie du passé. Et le passé, même s'il est mon inspiration, n'est pas forcément mon ami.
Ça fait une heure qu'on est ensemble, donc on va se séparer. Mes amitiés à Vanessa.
J'y manque pas.
Et tout à l'heure, vous irez au Théâtre de la Madeleine, il y a encore des places ce soir. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour un autre invité dans un autre Samedi Sabatier.
Merci, merci du fond du cœur de m'avoir reçu.
Merci Philippe.
Samedi Sabatier sur MFM Radio, avec Philippe Lelouch, dans la pièce Le Temps qui reste, au Théâtre de la Madeleine à Paris, jusqu'au 31 décembre.